L'heure qui commence, est-ce que notre frère Pascal Dougou voudrait nous conduire dans la prière? Amen. Je voudrais, à titre préliminaire, dire d'abord que j'avais prévu de retrouver le lieu des instituts bibliques dont j'avais la charge traditionnellement au sous-sol avec un groupe un peu plus restreint. Je pensais que nous pourrions reprendre selon ce régime, mais c'est M. Jean-Charles qui a souhaité, lui, rester au sous-sol avec un groupe réuni autour de lui, continuant sur son sujet. Donc, bon, j'ai accepté que cette année, en tout cas, je continue de m'adresser au groupe qui reste dans cette salle. Et du coup, je me suis dit que le mieux alors, c'était de ne pas changer de sujet, puisque nous avons vu la moitié du programme l'an dernier, voire cette année la deuxième moitié du programme qui concerne les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas le temps, c'est bien évident, de les étudier en détail. Il s'agit d'introduire, de donner une idée générale du message de chacun, de le situer dans le déroulement de l'histoire avant la venue de Jésus-Christ. C'est un très gros morceau que nous avons à voir. L'an dernier déjà, nous avons dû, sur le grand prophète Ésaïe, être très rapide. Et bien de même, cette année, nous aurons à voir plusieurs grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, ce sont de grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel surtout. Donc ne vous attendez pas à ce que nous puissions parler de chaque chapitre, mais nous cherchons à obtenir une vision d'ensemble. Aller jusqu'au bout, jusqu'à Malachie, dans les 6 séances, 6, 7, 8 à la grande rigueur, mais je pense qu'il y aura des instituts bibliques communs aussi, donc 6, 7 séances que nous aurons cette année ensemble. Et aujourd'hui, j'ai prévu de jeter un coup d'œil, puisqu'on ne peut pas faire beaucoup plus, sur les 3 premiers dans l'ordre chronologique, car nous suivons l'ordre chronologique. Nous avons pris les plus anciens l'an dernier. Les 3 premiers dans l'ordre chronologique de cette année, à savoir Nahum, Sophonie et Habacuc. Je suis à peu près sûr que ces petits prophètes ne sont pas parmi les mieux connus des membres de l'Église, donc ce que je vais dire sera peut-être relativement neuf pour certains. Vous avez, surtout sur Nahum ou Sophonie, peut-être buté sur des difficultés, l'impression que ça ne pouvait pas nous concerner beaucoup. Tout ce qui est dans la Bible nous concerne, plus ou moins directement, mais tout ce qui est dans la Bible nous concerne. Tout a été inspiré de Dieu et préservé selon sa volonté pour notre instruction. Alors il s'agira pour nous de voir au moins comment nous pouvons commencer à y discerner des leçons pour notre temps. Mais je rappelle brièvement le schéma chronologique de tout l'Ancien Testament et en particulier de la période pendant laquelle il y a eu des prophètes, où il y a eu des prophètes qui ont laissé des livres sous leur nom, ceux que nous étudions pendant ces 2 années dans ce cours. Bon, je vous rappelle que toute l'histoire plus aisément datable que la Bible nous raconte commence au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Avant, bien sûr, il y a toute l'histoire de Noé, il y a les patriarches antédiluviens, etc. Mais là, nous avons du mal à trouver des repères chronologiques très précis, très sûrs. En gros, moins 2000, moins 1800, avec l'appel d'Abraham, l'histoire biblique s'ébranle. Alors, il y a d'abord toute la période des patriarches. Il y a le temps de captivité en Égypte. Ça commence très bien avec Joseph et la grande délivrance que par Joseph Dieu accorde à la famille qu'il avait choisie, qui est en train de devenir un peuple en se multipliant. Et puis les choses se dégradent, cela devient une captivité pénible et c'est l'exode, c'est-à-dire sortie. Le mot exode veut dire sortie, c'est la sortie d'Égypte que Dieu permet à main forte et à bras étendus, c'est-à-dire en déployant sa puissance. Il fait de grands signes, et sous la conduite de Moïse, le peuple sort d'Égypte. Alors la plupart des spécialistes pensent que c'est au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, un peu avant 1200. mais d'autres plaident encore pour une date antérieure au XVe siècle, 1400 et quelques avant Jésus-Christ. Puis c'est les 40 ans au désert, la traversée du Jourdain, la conquête de la terre promise, ça prend du temps, c'est le temps des juges, et en gros vers l'an 1000 commence la royauté. Saül, je donne des dates très grosso modo pour que vous ayez une idée à peu près claire. 1000, Saül. Saül qui représente, je crois, de manière très, très significative dans le plan de Dieu un premier échec. Dieu le donne au peuple, il est bien choisi. C'est un homme fort et assez humble au départ, semble-t-il. Et puis, il commence à déraper et la dynastie qu'il aurait pu fonder avorte en quelque sorte avec son propre règne. Donc, Saül, c'est un premier roi, mais lui succède l'homme qui fonde une autre famille, David, qui lui fonde la grande dynastie des rois de Jérusalem qui vont se succéder pendant plusieurs siècles. Les uns fidèles, les autres moins fidèles ou carrément idolâtres, rebelles à l'égard de l'Éternel et qui attireront par leur péché le jugement sur tout le pays. Alors à la mort de Salomon, fils de David et le plus glorieux de tous ces rois, vous savez que le royaume se divise, que 10 tribus au nord, finalement constitue un royaume séparé qu'on appellera le royaume d'Israël et reste avec les fils de David autour de Jérusalem seulement Juda et Benjamin, parce que Benjamin c'est toute petite tribu juste en quelque sorte lovée dans le creux de Juda vers le nord. Donc Juda Benjamin constitue le royaume de Juda comme on l'appellera, et puis 10 tribus au nord constituent le royaume d'Israël qui, quelque temps après, aura pour capitale Samarie. Samarie dans la tribu principale qui était celle d'Éphraïm. Deux nations, ou deux royaumes pour une seule nation, pourrait-on dire. Deux nations, mais avec les mêmes ancêtres, la même alliance de Dieu qui y a été établie. Alors les rois se succèdent en Juda et en Jérusalem, et Dieu suscite des prophètes tout au long de cette histoire. Et à une époque, au IXe siècle, d'apostasie très commune, pas universelle, parce qu'il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, mais à une période donc d'apostasie généralisée, Dieu suscite par exemple Élie. Élie qui, à certains égards, fait figure de nouveau Moïse pour son temps. Dieu lui donne une révélation à la même montagne qu'il avait donnée à Moïse. Au chapitre 19 du premier livre des Rois, cela nous est raconté comme pour établir un parallèle entre Élie et Moïse. Mais Élie n'a pas une nouvelle Torah, une nouvelle loi à donner. Il rappelle simplement la Torah que Dieu a donnée par Moïse. C'est un prédicateur flamboyant, foudroyant, et donc il fait figure de prophète type dans le royaume d'Israël, parce qu'il était dans la région du Nord. Mais il ne laisse pas de livre. Il y a sans doute des prophètes de moindre gloire, de moindre éclat, constituant des petites communautés même, on dit les fils des prophètes, qui écrivent à ce moment-là l'histoire d'Élie, par exemple. Et cela va se retrouver dans nos livres historiques, les livres même des juges déjà, de Samuel, des rois, sont appelés livres prophétiques par les juifs. Ils appellent les premiers prophètes, parce que même si ce n'est pas Élie lui-même qui a écrit, ce sont des disciples de ces prophètes, des apprentis prophètes qui ont, semble-t-il, rédigé ces ouvrages. Parfois peut-être avec quand même d'autres apports, des archivistes royaux par exemple, mais donc il y a des prophètes que Dieu suscite, et c'est seulement dans la dernière partie du 8e siècle, du 9e siècle, excusez-moi, donc un peu avant 800, que Dieu suscite des prédicateurs qui vont laisser une trace écrite, eux-mêmes, de leur ministère. Alors nous avons vu l'an dernier que les premiers semblent bien avoir été Abdias et Joël, avant 800, à une époque difficile, je ne reviens pas sur ce que nous avons vu à leur propos. Et puis après 800, alors, ces prophètes écrivains, d'abord ils prêchent, mais ensuite leurs oracles sont mis par écrit et sont conservés, ces prophètes écrivains deviennent de plus en plus nombreux, importants. Alors nous les avons étudiés. Il y a Jonas, qui a un livre d'un type très spécial, mais je ne reviens pas à la discussion qu'on peut avoir à son propos. Puis il y a Amos, Osée, Michée, et puis alors le très grand, Ésaïe, qui annonce l'avenir à court terme et à long terme, de façon remarquable, dans un livre énorme, le plus grand des livres de l'Ancien Testament. Alors ces prophètes prêchent pour rappeler la loi au peuple, pour dénoncer son péché. Michée dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint pour dénoncer le forfait du peuple issu de Jacob. Ils ne se passent pas leur temps à prédire l'avenir. D'abord, ils ont ce message percutant qui dénonce le péché individuel et le péché social dans le pays, soit en Israël, soit en Juda. Mais ils interprètent aussi les événements de leur temps et ils annoncent ce que Dieu va faire sous une forme qui est plus ou moins directe, plus ou moins mystérieuse, mais vous voyez, c'est cet ensemble-là qui constitue leur prédication. Alors à l'époque, il y a bien des choses à interpréter pour le peuple. C'est une histoire de l'époque. C'est le royaume assyrien qui a son centre de gravité à peu près dans l'Irak actuel, qui domine à l'époque, à partir du 9e siècle déjà, cette région du monde, et qui fait peser sa poigne sur les petits peuples alentours dont Juda et Israël font partie. Alors, dans la première partie du 8e siècle, donc après 800, la Syrie a des difficultés internes. D'ailleurs, l'envoi de Jonas à Ninive, capitale de la Syrie, le montre bien. C'est dans un contexte de difficulté qu'il va prêcher le jugement de Dieu et qu'il y a un mouvement de repentance qui s'esquisse dans cette grande ville. À cause des difficultés internes des Assyriens, les peuples alentours peuvent souffler un peu. Et il y a des règnes prospères en Israël et en Juda. Mais cette prospérité elle-même, qui permet le luxe, aggrave les maux sociaux, l'injustice, des classes de possédants qui oppriment les pauvres dans le pays. Et alors des jugements sont annoncés, de plus en plus sévères, un jugement d'exil. Et effectivement, ça c'est une date très importante dans cette histoire, nous l'avons vu l'an dernier, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens, après avoir fait diverses incursions, etc., dévastent complètement le territoire d'Israël et mettent fin au royaume qui y était établi. Donc à partir de 722, il n'y a plus deux royaumes, celui d'Israël au nord, celui de Juda au sud, dans le territoire anciennement de Canaan. Il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que Juda qui survit encore, parce que les Israélites du nord ont été vaincus et déportés, pour une bonne part d'entre eux, dans d'autres régions de l'immense empire assyrien. Les Assyriens étaient très très féroces. Mais Juda subsiste encore, plus fidèle, il est sauvé par le Seigneur, et juste avant 700, sous le règne du roi Ézéchias, qui est un roi pieux, Dieu accorde une délivrance miraculeuse. Les Assyriens ont assiégé Jérusalem, apparemment ils ne vont faire qu'une bouchée de cette capitale d'un tout petit pays comme par rapport à leur empire. Et puis l'ange de l'Éternel frappe le camp assyrien, probablement une épidémie de peste qui éclate et qui les fait détaler. Et du coup, Jérusalem est sauvée. C'est ce qui nous est raconté dans le livre d'Ésaïe, et puis aussi d'ailleurs dans le livre des rois. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Là, nous atteignons la période qui concerne notre cours de cette année. Après 700, donc 700 c'est le point culminant du ministère d'Ésaïe, avec lequel nous avons terminé l'an dernier, après 700, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un siècle qui n'est pas brillant, qui commence. Ézéchias achève son règne, son fils Manassé lui succède, et lui, il n'a pas de véritable désir de suivre l'Éternel, de respecter sa loi. Il flatte les Assyriens, il se soumet à eux, il introduit leurs idoles. Il a un long règne, mais un règne où la religion en Juda est pervertie. Donc c'est un temps très, très très sombre. Et pendant ce temps-là, les Assyriens font peser leur joug sur toute cette région très très durement. Toute la première partie après 700 de ce 7e siècle, donc avant Jésus-Christ. Comme nous sommes avant, les dates diminuent, vous avez bien compris cela, c'est avant Jésus-Christ. Et ça va se terminer très très mal. Finalement, les Assyriens sont remplacés, ils finissent par s'affaiblir, alors il y a un petit répit, et là un roi fidèle peut profiter de ce répit, c'est une bénédiction que le Seigneur donne à son peuple, c'est le roi Josias, nous allons en reparler, mais c'est un répit de courte durée parce que les Babyloniens remplacent les Assyriens comme puissance dominante de la région, et eux, ils vont accomplir les jugements que Dieu a annoncés par ses prophètes, et en 587, donc peu après 600, en 587, nous avons la chute de Jérusalem, la ruine du temple et la fin de la royauté de Juda aussi. Le sort qu'avait connu Samarie, le royaume du Nord en 722, maintenant c'est le royaume de Juda avec Jérusalem, avec le temple de Dieu, dont beaucoup de Juifs pensaient que c'était un talisman. Tant qu'il y avait le temple de Dieu, il ne pouvait rien leur arriver. Maintenant c'est Jérusalem et le temple qui sont détruits. Complètement, la population déportée, c'est la dévastation, c'est l'exil. Et là, vous avez la période de l'exil, exil en Babylonie, puisque ce sont les Babyloniens qui règnent à ce moment-là, qui constituent comme un terrible entracte dans l'histoire de ce peuple de Juda, Juda-Israël, à partir de la fin du royaume d'Israël. Bon, le mot Israël peut s'appliquer de nouveau à Juda aussi. Il y a un seul ensemble, Israël-Juda, mais un ensemble bien appauvri, bien meurtri. Alors, après l'exil, il y aura la restauration. Une restauration à une échelle modeste d'abord, longue, difficile, mais il y aura une restauration, comme les prophètes l'ont promis. Un autre royaume remplace l'empire babylonien et permet cette restauration, c'est l'empire médo-perse. Tout ça, c'est très lié à la grande politique internationale, ce que nous lisons chez ces prophètes. Le temple est reconstruit, mais il n'y aura pas de roi, de royauté rétablie. Les fils de David ne pourront pas régner vraiment à Jérusalem. Ils seront sous l'autorité de l'empire médo-perse. Puis à son tour, cet empire médo-perse sera abattu, remplacé par un empire fondé par Alexandre le Grand, empire donc de culture grecque, on dit souvent hellénistique, cela donc à la fin du IVe siècle, 300 et quelques avant Jésus-Christ, et la période de domination grecque, je n'entre pas dans les détails maintenant, s'achèvera quand ce seront les Romains qui vont prendre la relève et qui vont devenir les maîtres de tout l'univers connu de l'époque. Vous voyez, c'est comme ça que se structure cette histoire d'Israël, et c'est tout spécialement le livre de Daniel qui nous montrera cette structure clairement. Nous devrons l'étudier brièvement, bien sûr, aussi cette année. Le livre Daniel, surtout dans ses deux grandes visions du chapitre 2 et du chapitre 7, nous parle des quatre grands empires qui vont se succéder à partir du temps de Daniel, qui est le temps de cet empire babylonien qui a détruit Jérusalem et le temple. Alors il y a d'abord l'empire babylonien, c'est le premier des quatre, puis ensuite l'empire médo-perse, qui permettra la restauration, puis l'empire grec, et finalement l'Empire romain. Et au temps de l'Empire romain, alors le royaume de Dieu sera instauré. Viendra le Messie, le Fils de l'homme, qui fondera un royaume éternel. Voilà ce que le livre de Daniel enseigne, mais voyez que ça prend son sens quand on connaît le grand schéma des empires successifs. Bon, je rappelle, ici vous avez donc l'empire assyrien. Le mot vient de la ville d'Assur, qui était la ville capitale d'abord, avant que ce soit Ninive. Puis, après ça, c'est l'empire babylonien. En fait, on dit parfois l'empire néo-babylonien, parce que bien plus loin dans le temps, bien avant, il y avait eu un premier empire babylonien. L'empire babylonien ou néo-babylonien. Puis, à la fin de l'exil, l'empire médo-perse. Et plus bas que ma feuille, l'empire grec, hellénistique et l'empire romain. Et les prophètes que nous allons étudier, donc, sont de cette période-là, à partir du 7e siècle. Alors, quels sont-ils? Vous en donnez une petite idée, puis je vais encore revenir même mais plus en détail sur la première période pour situer les trois premiers prophètes aujourd'hui. Quels sont-ils, ces prophètes? Bon, il y a d'abord un trio de relativement petits prophètes, petits par la longueur des livres qu'ils ont laissés, et aussi peut-être par leur importance quant aux révélations qu'ils ont eu à transmettre. Ce n'est pas les minimiser que de constater qu'ils n'ont pas eu un ministère d'une envergure égale à celle d'Ésaïe ou celle d'Ézéchiel. Donc, vous avez Nahum, si on prononce à la manière hébraïque, alors en français on disait autrefois plutôt Nahum, maintenant il y a des bibles qui ont mis O-U pour qu'on prononce Nahum, voilà. Bon, en hébreu ça se prononcerait Nahum. Puis vous avez Sophonie et vous avez Habacuc. Bon, vous pouvez écrire avec des C ou avec la lettre Q, c'est comme vous voulez, ça correspondrait d'après les correspondances d'alphabet à la lettre Q plutôt, ce qu'on a en hébreu. Mais ça fait un mot un peu difficile, un peu rude, Habacuc. Donc vous avez ce trio de petits prophètes, puis vous avez un trio de grands prophètes à la période décisive de la destruction, dans ce moment de l'agonie du royaume de Juda. Trio de grands prophètes qui vivent ces événements et qui en donnent le sens à leurs contemporains, souvent très rétifs, qui sont même persécutés. Vous avez Jérémie, le prophète douloureux que Dieu a suscité précisément pour ce temps-là, et je pense qu'il a doué d'une sensibilité très fine pour qu'il en souffre, parce que c'était un témoignage. Cette souffrance du prophète était un témoignage de la tristesse du Seigneur, de devoir corriger son peuple comme il le faisait. Jérémie, qui lui est resté à Jérusalem presque jusqu'à la fin de sa vie, où il a été entraîné en Égypte par un groupe de fuyards. Jérémie, qui a vécu, vous voyez, toute cette période-là à peu près. Ézéchiel, qui lui a été déporté en Babylonie, qui a fait partie des exilés, et qui a été aussi un très grand prophète. On ne sait pas s'il a vécu aussi longtemps, il n'a pas vécu, semble-t-il, aussi longtemps que Jérémie. Il devait être plus jeune, nettement, que Jérémie, et pourtant il ne semble pas avoir prêché tellement plus tard que Jérémie. Et puis Daniel, que nous avons l'habitude d'étudier parmi les prophètes, qui n'est pas un prophète au sens étroit du terme, parce que les prophètes au sens étroit du terme étaient des prédicateurs. C'étaient des orateurs publics. Ils allaient sur les places, dans le temple, et ils annonçaient oralement le message avant de le mettre par écrit, ou que leur secrétaire le mette par écrit. Parce que pour Jérémie, il avait un secrétaire. Daniel, lui, n'a jamais prêché sur les places. Il était aussi un exilé. Il avait un statut officiel de sage, d'administrateur de l'Empire, et il a reçu des révélations pour les écrire. C'est pour ça que techniquement, on peut dire, ce n'est pas un prophète, c'est plutôt un voyant, auteur d'Apocalypse. Alors nous reparlerons de ces différences, qui sont essentiellement des différences de forme, entre l'Apocalypse et la prophétie. Mais les deux se chevauchent quand même, vous voyez, les deux catégories se chevauchent. Et on peut faire une distinction, il ne faut pas les opposer du tout. Et puis, il y a des passages qui sont un peu entre deux, entre le genre de la prophétie et le genre de l'Apocalypse. Donc ces trois-là, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, pour cette période si décisive. Et puis alors la restauration, donc après les 70 ans, après que l'Empire Médo-Perse a pris la relève, alors là aussi vous avez un autre trio. En fait, nous avons trois trios. C'est le trio des prophètes de la restauration, Agé, qui a écrit un message assez court, très, très lié aux circonstances particulières, comme nous le verrons. Zacharie, qui lui est en fait un grand prophète. Bon, ce n'est pas énorme, 14 chapitres, mais enfin c'est déjà quand même pas mal. Et puis, ce message est très très riche, c'est un message travaillé, puis il a vécu longtemps, semble-t-il, jusque vers le milieu, ou presque le milieu, du 5e siècle, c'est-à-dire vers 460. Et puis Malachie, alors qu'il est arrivé plus tard, lui à la fin de ce 4e siècle, de ce 5e siècle, je veux dire, vers 400. 420 peut-être, 400. Et c'est le dernier, parce que ça aussi c'est très, très significatif. Hein. On peut déchiffrer les intentions divines dans l'organisation de l'histoire que Dieu a voulu. Dieu a voulu qu'entre la série des prophètes et le Nouveau Testament, il y ait une coupure nette. Il y a eu 4 siècles, pourrait-on dire, de silence prophétique. Et même les Juifs l'ont remarqué. Dans les livres de Flavius Joseph, ce docteur pharisien du 1er siècle et historien du judaïsme, il est dit qu'il y a eu arrêt de la lignée prophétique. Le cortège des prophètes s'est arrêté. Et il y a 2 ou 3 autres témoignages dans le judaïsme. On s'est rendu compte de cela. Bon, il y a eu des messages prophétiques ici ou là, mais pas un prophète reconnu de la série canonique, porteur de la révélation de Dieu pour donner la fondation de la foi. Non, ça, il n'y en a plus eu. Dieu a voulu qu'il y ait une telle coupure. Et je crois que c'était pour bien montrer que la nouvelle alliance était une nouvelle alliance. C'est pour bien montrer qu'il ne faut pas confondre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu a mis cette coupure de 4 siècles dans l'histoire pour que la distinction soit claire. Et c'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste a surgi, « Ah, de nouveau, un prophète !» Un prophète comme Élie, comme la série de l'Ancien Testament. C'était le signe que Dieu allait maintenant accomplir toutes ces prophéties qui étaient restées comme en suspens pendant 4 siècles. Alors, ce schéma donné, je vais encore revenir sur le détail de ce qui s'est passé au 7e siècle. Donc, après l'an 700, les dates en 600 et quelque chose, pour que vous saisissiez ensuite mieux comment je vais pouvoir situer les trois prophètes, Nahum, Sophonie et Habacuc. Ça ira très vite, mais parce que je compte laisser quand même au moins 5 minutes de questions. Mais je crois qu'il faut placer sous vos yeux ce cadre. Alors, en fait, je ferais mieux d'avoir le tableau comme ça, mais ce ne serait pas commode. Alors, j'espère que vous verrez, même si ce n'est pas très, très grand. Voilà, vous avez donc la Méditerranée ici. Hein. Voilà, l'Égypte est ici. Vous avez le fleuve, la mer Rouge, le golfe d'Aqaba, la mer Morte. Vous avez Juda, Jérusalem, ici. Et puis, bon, je ne sais pas si je respecte tout à fait les proportions, le golfe Persique, c'est par là. Alors, la puissance dominante au début du 7e siècle, quand Ézéchias termine son règne, Ézéchias qui avait été miraculeusement délivré par Dieu de l'attaque assyrienne, et puis quand Manassé, son fils, monte sur le trône, et pratique une politique de soumission aux Assyriens, c'est donc l'Assyrie qui se situe dans cette région du monde, donc au nord-est, là il y a le grand désert d'Arabie, hein. Personne ne peut y subsister sauf dans quelques oasis, voyez. Donc ce sont les Assyriens qui dominent tout, qui dominent la région de la Syrie qui est ici, et qui domine donc le territoire de toute cette région du monde. Babylone se situe à l'est, voilà. Babylone est par ici, mais elle est sous le joug assyrien. Babylone, la grande cité prestigieuse, qui essaye toujours de se révolter d'ailleurs contre les Assyriens. Alors les Assyriens, avec Sankhérib comme empereur tout au début, donc ont la situation bien en main, des troupes bien entraînées et féroces. En 689, se produit un événement assez important qu'il faut mentionner, qu'en fait Ésaïe a prédit, même si tous les commentateurs n'ont pas vu qu'il l'avait prédit. Les Babyloniens essaient pour la énième fois de se révolter. Ils ont un grand passé, ils savent qu'il y a eu autrefois un empire babylonien, alors ils essayent de se révolter, et les Assyriens écrasent la rébellion. C'est une répression impitoyable, et la ville de Babylone est complètement rasée par l'empereur d'Assyrie, 689. Oui. Les Assyriens donc ont la situation bien en main. Ils vont même jusqu'à soumettre la seule puissance qui restait encore dans ce Moyen-Orient qui est le monde biblique, connu, n'est-ce pas, à l'époque. C'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte est quand même bien à part géographiquement, le long de la vallée du Nil. Eh bien, les troupes assyriennes réussissent à soumettre l'Égypte en 663, la ville principale de Thèbes. Nohamon. Ce sont les deux noms. Thèbes, c'est le nom que les Grecs lui donnaient. Cette ville-là est prise, détruite par les Assyriens. Ils sont vraiment les maîtres. Mais les décennies se succèdent et les Assyriens commencent à avoir des problèmes. Les Babyloniens, malgré tout ce qu'ils ont subi, après une ou deux générations, recommencent à s'agiter. Et surtout, ils réussissent à passer certaines alliances avec les Mèdes. Les Mèdes sont les montagnards qui habitent dans ces régions, qui sont surtout en Iran maintenant. Des guerriers farouches, très efficaces au combat. Et les Babyloniens, cherchant à secouer le joug assyrien, et les Mèdes prennent des contacts, commencent à s'accorder. Les Assyriens ont de plus en plus de mal à assurer leur maîtrise de l'immense ensemble géographique qu'ils contrôlaient. À partir de la moitié du 7e siècle, surtout de 640, les Assyriens ont trop d'ennuis chez eux pour vraiment réprimer toutes les tentatives d'échapper à leur influence qui se passe sur le pourtour. Bon, déjà les Égyptiens, mais rapidement après la destruction de 663, ont réussi à se relever, parce que les Assyriens, c'était quand même loin, une fois leurs armées reparties. Et puis, après ça, c'est d'autres peuples alentour. Les Mèdes et les Babyloniens carrément commence à affaiblir l'empire assyrien dans ses parties vives, voyez, au centre du secteur. Ça permet à Jérusalem, à un roi fidèle, le roi Josias, Dieu a suscité un roi fidèle pour cette période, hein, Dieu ajuste tout, Josias, d'entamer des réformes qui vont purifier le pays de l'idolâtrie que Manassé y avait installée partout. C'est comme ça que, au début, Josias, qui commence à régner à 8 ans, donc au début il ne peut rien faire, il est un enfant, mais quand il accède à la majorité, les Assyriens ne sont plus très forts, alors ça le lui permet autant mieux, il commence à lancer des mouvements de réforme, et surtout à partir de 622. En 622, on découvre, en faisant des travaux de réfection au temple, un rouleau de la loi qu'on avait oublié. Apparemment, c'était le Deutéronome. Évidemment, il n'y avait pas l'imprimerie, donc il y avait beaucoup moins d'exemplaires. Et alors, quand on apporte ça au roi, il est tout saisi, il se rend compte qu'on n'a pas été du tout dans la ligne prescrite par Dieu, et il lance un grand mouvement de réforme dans le pays. Malheureusement, ça restera quand même très superficiel. ça part d'en haut du roi. Il a autour de lui des gens qui l'aident, en particulier le scribe Shaphan, qui est un haut fonctionnaire, mais dans le peuple, on restera attaché aux idoles. Le goût des idoles ne sera pas si facilement déraciné. Alors cette histoire continue. Les Babyloniens et les Mèdes finissent par être plus forts que les Assyriens. Et en 612, ils détruisent Ninive, et en quelques années, c'en est fini de l'empire assyrien. Les Babyloniens, aidés par les Mèdes, et puis même il y a des hordes de Scythes de la région de la mer Noire qui déferlent de temps en temps, qui profitent de la situation. Donc, à partir de 612, l'empire assyrien a vécu. Il y a encore quelques combats pendant quelques années, et un empire néo-babylonien s'établit sur cette région. En 605, le pharaon, qui s'appelle Necho, il se dit, aïe, 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 nous avons souffert des Assyriens, qui étaient un peu trop forts, il ne faudrait pas que les Babyloniens deviennent aussi forts qu'eux et nous fassent subir le même sort. Alors, il essaie de rencontrer en bataille l'empereur de Babylone, mais il est vaincu. Il est vaincu dans une ville qui s'appelle Carchemish, sur l'Euphrate, les grands fleuves, sur le Tigre et l'Euphrate, dans cette grande plaine de la Mésopotamie, et il est obligé de refluer en désordre avec les restes de son armée en Égypte. La maîtrise du Moyen-Orient appartient maintenant à cet empire babylonien, donc Babylone, si vous voulez ici, la ville. Juda ne pouvant pas faire exception. Alors le détail pour Juda, nous allons le revoir encore, mais je vous en donne juste une petite idée, et puis je parle des trois prophètes qui restent. Le détail pour Juda, je l'explique. Josias, roi fidèle qui a fait la réforme, il sait, parce que les prophètes l'ont dit, surtout Jérémie l'a dit très très clairement, que Dieu a décidé de donner la victoire aux Babyloniens pour toute cette période de l'histoire. Alors il se croit malin. Quand le pharaon, une première fois, parce que c'est une première fois en 609 qu'il avait essayé d'affaiblir les Babyloniens, de se porter à leur rencontre et de leur livrer bataille, c'est en 605 la deuxième fois que ça a été vraiment tout à fait décisif. Mais lorsque donc Josias voit que le pharaon va aller combattre les Babyloniens, il se croit malin en disant, je sais, puisque Dieu l'a révélé, que c'est les Babyloniens qui seront les plus forts. Donc je me mets du côté des Babyloniens, j'attaque les Égyptiens. Et alors, au moment où l'armée du pharaon se dirige vers le lieu où sont les Babyloniens, donc dans cette région, à Megiddo, Josias essaye de barrer la route au pharaon. Il se dit, comme ça, les Babyloniens m'en sauront gré. Ils verront que j'ai voulu gêner leurs adversaires, donc je vais en profiter. Oui, seulement c'était fou, parce que les Égyptiens étaient bien plus forts que la petite armée de Juda, quand même. Et Josias est vaincu à Megiddo. Il est tué à Megiddo. Alors, le fils qui lui succède, d'abord, à Jérusalem, c'est un fils qui est dans la même ligne que lui. Seulement, le pharaon revient, après s'être battu de manière non décisive avec le Babylonien, il revient, il passe par Jérusalem, il emmène ce fils comme captif en Égypte, puisque c'est un anti-égyptien, il est dans la ligne de son père Josias. Et puis il met à sa place un autre fils qui est pro-égyptien, lui, et qui prend le nom de Joachim. Donc, à partir de ce moment-là, ça se passe très vite, tous ces événements que je viens de raconter, c'est un roi pro-égyptien, anti-Jérémie, qui est à Jérusalem et qui donc ne respecte pas les prophètes de l'Éternel, injuste, corrompu. Et alors, il est inévitable que les Babyloniens traitent le royaume de Juda en royaume plutôt hostile. Alors, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, après Carchemish, c'est lui qui prend le pouvoir, qui succède à son père, à la tête de Babylone. soumet d'abord Yoyakim. Il lui impose de payer un lourd tribut. Il emmène quelques otages, parmi lesquels Daniel, des meilleures familles de Jérusalem, 605. Après Carchemish, il a les mains libres. Yoyakim se soumet, mais à contre-cœur, hein, parce qu'il est pro-égyptien de cœur. Et puis, peu après, dès que les Babyloniens sont repartis, ou n'ont laissé que de toute petite garnison, alors ils refusent de payer le tribut. Ils se tournent vers l'Égypte, les Égyptiens bien sûr essaient d'y encourager, ils disent « Mais si, on t'aidera, vas-y, surtout ne cède pas aux Babyloniens. » Et alors les armées babyloniennes vont revenir pour mater cette rébellion. Elles le feront une première fois en 597, prendront la ville, déporteront une bonne partie de la population, lourd tribut, mais installeront encore un autre fils de Josias, en se disant quand même, bon, c'était Yoyakim qui était imbuvable, mais voyons si un autre fils sera plus raisonnable. Et puis cet autre fils, qui est un faible, qui s'appelle Sédécias, on lui donne le nom de Sédécias lorsqu'il monte sur le trône, c'est le roi de Babylone qui lui donne ce nom même. Sitôt que les Babyloniens sont partis, est incapable de résister à l'influence de son entourage, qui est manipulé par l'Égypte. Et Sédécias, hésitant, parce qu'il fait venir Jérémie, il écoute, il sait bien que Jérémie a raison, mais il n'a pas l'énergie, le courage de résister à la clique qui l'entoure, pro-égyptienne, et du coup, lui aussi se révolte contre les Babyloniens. Alors, qui reviennent en 587, comme je l'ai dit. Et alors là, bon, c'est vraiment la fin. Sédécias verra ses fils égorgés devant lui, aura les yeux crevés, le châtiment qu'on lui administre. Là, la royauté, c'est fini. C'est la ruine du temple. Donc, nous reverrons ces événements un peu plus en détail. Mais maintenant, cette chose étant donc dressée devant vous, je situe le message des trois prophètes. Et puis, j'essaie, dans les quelques minutes qui resteront, de répondre à des questions précises que vous pourriez avoir. Nahum, premier prophète, où se situe-t-il? Il se situe sans doute vers 650 peut-être. L'introduction de la Bible du Sommeur est remarquable. Suivez-la, en tout cas, moi je la contresigne. Bon, ce sont d'anciens étudiants à moi aussi qui l'ont rédigé, donc il n'est pas surprenant que je sois d'accord. Mais enfin, ils ont fait un bon travail, hein, plus fouillé que je n'avais pu le faire. Donc, vous pouvez vous reporter à ce résumé dans la Bible du Sommeur. Nahum, c'est le prophète qui annonce à Ninive, la capitale de la Syrie, qu'elle va subir le sort qu'elle-même a administré à Thèbes. Le livre, c'est très clair, c'est un cri de justice, une annonce du rétablissement du droit. La loi du talion va s'appliquer à Ninive. Ce qu'elle a fait aux autres, elle va le subir à son tour. Le prophète annonce que le sort que Thèbes a connu, Ninive va le connaître à son tour. Les rois d'Assyrie aimaient la chasse aux lions, eh bien, ce sont les Assyriens qui vont être chassés comme le lion qu'on prend au piège. La ville de Ninive était une ville séduisante, pleine de sortilèges, comme une prostituée. Eh bien, elle subira le traitement des prostituées. Elle sera mise au pilori. Voilà ce qu'annonce le prophète Nahum. C'est son message, est un message sur Ninive, comme le titre le dit, proclamation sur Ninive, qui annonce que Dieu rétablira la justice. Dieu, c'est mystérieux, laisse les méchants triompher pendant un certain temps. Mais Dieu est un Dieu de justice, et dans son gouvernement du monde même, il règle certains de ses comptes. Tous ses comptes, il les réglera au jugement dernier. Mais déjà dans l'histoire, on peut voir que les arrogants, les féroces, subissent souvent le sort qu'ils ont mérité. Ce sera le cas de Ninive, et c'est ce qui s'est passé, vous voyez, en 612. Alors, il n'y a pas de date dans le livre même de Nahum, donc on doit dire c'est entre 663 et 612, puisque son message se résume en un message à Ninive, comme tu as fait à Thèbes, il te sera fait. Alors, comme tu as fait à Thèbes en 663, il te sera fait en 612. Donc, ça se situe entre ces deux-là. Mais il y a plusieurs indices qui montrent que c'est sans doute très près de la date de destruction de Thèbes. Je vous ai dit que Thèbes Noamon a été reconstruite quand même assez vite. Alors, le message aurait été moins percutant si les Babyloniens avaient pu se dire « Oh bien, Thèbes s'est reconstruite !» Donc c'est probablement peu de temps après, les Babyloniens, je veux dire les Assyriens, avaient pu se dire ça. Voilà pour le message de Nahum, qui est un message qui nous apprend à lire les événements de l'histoire mondiale autrement qu'on le fait dans nos médias. Qui pense à des jugements de Dieu lorsque des massacres, des guerres ont lieu? Alors c'est sûr, ce n'est pas toujours l'expression d'une justice qui redresse les torts, ce qui se passe dans l'histoire. C'est entremêlé. Dieu se sert d'un peuple injuste pour punir un peuple injuste. Mais rappelons-nous que malgré les énigmes qu'il y a, c'est notre Dieu qui reste le souverain de l'histoire du monde. Voilà ce que nous rappelle le livre de Nahum. Deuxième prophète, Sophonie. Alors Sophonie, lui, il a sans doute prophétisé, c'est pratiquement dit, vers 630. C'est-à-dire, juste au moment où le jeune roi Josias commençait à esquisser des mouvements de réforme. Le royaume était encore, je dirais, religieusement pourri, à cause de tout ce que Manassé, le grand-père de Josias, avait instauré, toutes les idoles, tous les carrefours, etc. Josias, qui dès son enfance donc était un homme pieux attaché à l'Éternel, commence sans doute tout juste à vouloir agir autrement, mais il est encore très jeune, encore un adolescent, et le prophète Sophonie vient prêcher contre les injustices et les idolâtries qui sont multipliées dans le pays, annoncer des jugements, mais aussi annonce le salut pour les humbles. C'est ça le terme clé, sans doute, dans son livre, qui est un peu moins court quand même que Nahum. C'est le mot des humbles ou de l'humilité. Le peuple, peut-être petit, minoritaire en Juda, qui humblement s'attache à l'Éternel, qui ne prétend pas rouler des mécaniques et se faire un culte à son idée, mais qui reçoit de Dieu ce que Dieu lui-même a décidé, ce peuple humble, alors il sera sauvé. Il y a une très belle promesse de renouvellement de Jérusalem, de joie, de fête pour ce peuple humble sur la montagne de Dieu, dans ce livre du prophète Sophonie. Alors certainement, Sophonie a contribué au mouvement de réforme que le roi Josias, juste un peu plus tard, a pu déclencher. Il se situe à cet endroit-là. Il est très possible, plusieurs le pensent, et je crois qu'on peut l'établir, que Sophonie était lui-même de race royale. Parce que sa généalogie, au lieu de nous donner simplement le nom de son père, comme c'est habituel, remonte plus haut jusqu'à un certain Ézéchias, dans le titre. Alors il n'est pas dit que c'est le roi Ézéchias, mais pourquoi remonter plusieurs générations, sinon pour marquer quand même quelque chose de particulier? Puisque ça s'arrête à Ézéchias, c'est sans doute le roi Ézéchias. Ce n'était pas la lignée des héritiers du trône, vous voyez. Peut-être était-ce un fils né d'Ézéchias par une femme de rang inférieur, qui, parce que vous savez qu'il y avait plusieurs rangs parmi les reines, concubines, etc. Donc, c'était pas un héritier du trône, mais c'était un homme de sang royal, un descendant d'Ézéchias, sans doute, que Sophonie. Et puis, le dernier prophète, alors, je le situe à son tour, c'est Habacuc. Habacuc. Peut-être un lévite, c'est assez probable, puisque son troisième chapitre a la forme d'un psaume. Vous pouvez chanter dans le temple. Les lévites étaient associés au service du temple, et en particulier au chant dans le temple. Donc Habacuc était peut-être, probablement, un lévite. Lui prophétise sans doute dans la période la plus sombre, vers 605, au temps où Joachim règne en Juda. Joachim, c'est celui qui a été mis en place par le pharaon, qui est très hostile à Jérémie, et Habacuc, autre prophète de ce temps-là, donc nous donne le reflet de cette situation sous le règne de Joachim, vers 605, 604, 603 peut-être, on n'a pas la date exacte, c'est pas donné. Et son livre est bâti de la manière suivante, c'est très significatif, je vous dis cela et puis je laisse donc 5 minutes de questions. Il commence par dire sa plainte à Dieu, c'est d'abord un dialogue avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, jusqu'à quand Seigneur? Mais c'est horrible la situation dans le pays, la loi est bafouée, partout c'est de l'oppression, c'est le règne de Joachim. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu lui répond, première réponse de Dieu, bon, très bien, oui, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant. Ce sera terrible. Je vais envoyer les Babyloniens, ou Chaldéens, c'est synonyme, hein, Chaldéens ou Babyloniens. Ils vont venir, leur armée si efficace. Mais alors, Habacuc réagit, donc, le dialogue continue, en disant, mais ils sont encore pires que Joachim, ce sont des païens, des idolâtres. Ils vont attribuer leur victoire à leur faux dieu païen. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu traites les humains, toi qui as les yeux trop purs pour voir le mal, est-ce que tu traites les humains comme si c'était du menu fretin, nous dirions comme un enfant qui s'amuse avec des fourmis? Qu'est-ce qui se passe? Il pose avec angoisse le problème de ce mal que Dieu, dans son gouvernement de l'histoire, permet. Même si c'est pour punir Joachim, c'est quand même un mal atroce. Et alors, il dit, je me poste à mon poste de guet, parce qu'un prophète est comme une sentinelle, pour attendre ce que Dieu allait répondre à ma doléance, ce qu'il allait dire en réponse à cette doléance que j'avais exprimée. Et là, Dieu lui répond, c'est le cœur du livre, que la vision, il faut comprendre la vision prophétique, la promesse que Dieu rétablira toute justice, qu'il établira son règne, que cette promesse, elle ne faillira pas, qu'elle est fixée pour son temps, qu'elle se tend en quelque sorte vers cet accomplissement. Mais qu'en attendant, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup. Le méchant, il se gonfle dans son orgueil, ou il fait défaillance, on peut traduire de ces deux façons. Mais le juste vivra par la foi. Le juste, mon juste, vivra par la foi. C'est-à-dire, même dans un temps de ténèbres, où vraiment on n'y comprend rien à la manière dont Dieu conduit les choses et permet tant de malheurs, il faut s'attacher à sa parole, à sa promesse qui ne faillira pas. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est le cœur du livre, Habacuc 2, 4, que Paul citera deux fois et l'auteur de l'Épître aux Hébreux une fois. Puis alors après, dans le deuxième chapitre, la suite du deuxième chapitre, il y a des épigrammes contre probablement l'Empire assyrien, il n'est pas nommé comme tel, mais contre la grande puissance païenne qui asservit les autres peuples, ça peut être l'Empire babylonien aussi. Ces empires seront châtiés par Dieu. Et puis le troisième chapitre est un psaume où le prophète Habacuc, qui est aussi poète, psalmiste donc, célèbre la manifestation de Dieu en utilisant des souvenirs du premier exode, et où il l'achève par l'affirmation de sa confiance en Dieu malgré les temps terribles dans lesquels il se trouve. Voilà donc très brièvement résumé le message de ces prophètes dans la situation historique. Alors, est-ce que vous avez des questions portant sur ces prophètes? Oui, oui, madame. Oui. Alors, en ce qui concerne les fils d'Ésaïe, nous n'en savons rien. Ils sont nommés dans son livre. Ils ont joué un rôle, je dirais, dans le ministère d'Ésaïe lui-même, parce qu'il leur a donné des noms symboliques pour rendre, en quelque sorte, plus frappants les oracles qu'il a prononcés. Il y a Shear Yashuv, dont le nom signifie « un reste reviendra ». Ça, c'était un grand message d'Ésaïe, « un reste reviendra », qui était un message à double tranchant, en plus. Seulement un reste. La masse du peuple, qui est rebelle, incrédule, sera emportée par le jugement. Il n'y aura qu'un reste. Et Ésaïe avait pu dire, si l'Éternel nous avait laissé un reste, nous serions comme Sodome et Gomorre. Un reste seulement. Mais un reste quand même. là où d'autres peuples sont complètement éliminés, Dieu a un avenir encore en réserve pour ce reste. Donc ça, c'était le nom d'un des fils, et l'autre, c'était Mahar Shalal Hashbaz, ce qui était l'annonce que le roi de Syrie allait être complètement vaincu par le roi d'Assyrie, à ce moment-là. Et le roi d'Israël et le roi de Syrie étaient ensemble. Ils faisaient peur au roi auquel le prophète parlait, et le prophète lui dit, c'est pas eux qu'il faut craindre. Bientôt, ils seront vaincus, ce sont comme des bouts de tison fumant qui ont presque fini de brûler, et leur butin va être apporté au roi d'Assyrie. Et il donne ce nom-là à son fils, au petit garçon qui naît à ce moment-là, de sa femme qu'il appelle la prophétesse d'ailleurs, pour que l'oracle, voyez, soit plus frappant aux yeux de tous ceux qui entendent. Alors que sont-ils devenus? Nous n'en savons rien. Quant à Ésaïe lui-même, bien sûr, il n'a pas vécu jusqu'à l'exil. Hein, l'exil dans ce que j'ai donné comme... L'exil, donc, se situe après 587 ou 597 pour la première vague d'exilés. Or, Ésaïe, lui, a vécu un peu après 700. Voyez. Donc, il y a un siècle, en gros, après la mort d'Ésaïe, qui s'écoule, jusqu'au moment où l'exil a lieu. Donc lui n'a pas vécu l'exil. Comment est-il mort? Ce n'est pas raconté dans son livre. Il y a une tradition juive qui dit qu'il est mort scié dans un tronc d'arbre. Il a vécu jusqu'au début, d'après cette tradition, jusqu'au début du règne de Manassé, donc le fils d'Ézéchias. Ézéchias avait honoré Ésaïe, mais Manassé, qui était juste le contraire de son père, pourchassait le prophète. Il se serait caché dans un tronc d'arbre creux, mais il aurait été découvert, et pour le mettre à mort, le roi aurait trouvé malin de faire scier l'arbre dans lequel se trouvait ce tronc creux, dans lequel se trouvait Ésaïe. Ça, c'est la tradition juive, et on pense que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, lorsqu'il est dit « certains furent sciés », de ces héros de la foi qui n'ont pas obtenu leur délivrance sur la terre, dans le cadre de l'Ancien Testament, que lorsque donc l'auteur aux Hébreux dit « certains furent sciés », il fait une allusion à cette tradition juive, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de récit où quelqu'un est scié pour sa foi. Donc, qui fait allusion avec cette tradition juive, à cette tradition juive, et du coup, lui donne une certaine autorité pour nous. Si l'auteur aux Hébreux, inspiré, parle de témoins de la foi qui ont été sciés, on peut penser donc que c'était vrai. Voilà tout ce que je sais, en tout cas, sur la fin d'Ésaïe. Oui, M. Berger. Oui, Esdras, Néhémie, Esther se situe donc au 5e siècle après l'œuvre de restauration. Il se trouve à la fin de l'œuvre de restauration, après l'exil. Il se situe à la fin du ministère de Zacharie, qui a été long, et avant le ministère de Malachie sans doute, ou à peu près en même temps. Pour Malachie, on peut hésiter, vous voyez, de 20-30 ans. Donc c'est dans cette zone-là que se situe le ministère d'Esdras, Néhémie, et puis l'histoire d'Esther, qui est à la cour du roi de Perse, Médo-Perse, aussi dans ce siècle-là, première partie de ce siècle-là. Alors dans la Bible hébraïque, ils ne font pas partie des prophètes. Ils font partie de la troisième section qui s'appelle les Écrits, qui est une section qu'on pourrait dire un peu fourre-tout, c'est-à-dire qui contient des éléments très divers. Elle n'a pas, quant au genre, une grande homogénéité. Il y a les psaumes, il y a les ouvrages de sagesse, proverbes, ecclésiastes, etc. Et puis il y a aussi des écrits de type plus historique, mais tardifs, qui ont été rédigés plus tard. Et donc pas par des prophètes, mais plutôt par des archivistes. Il y a les livres des chroniques, et aussi Esdras, Néhémie, qui formaient sans doute un seul ensemble, et le livre d'Esther. Voilà, je crois que c'est l'heure d'achever. Donc la fois prochaine, Dieu voulant, j'essaierai d'aborder le livre de Jérémie. Pour Jérémie et Ézéchiel, je dis chaque fois une ou deux séances. Il faudra que ce soit un grand survol.